Bienvenue à la troisième édition du congrès virtuel francophone de FE. Je suis Marie-Annelle, votre hôtesse ce soir. Et avant de commencer, je voudrais vous avertir qu'en écoutant cette conférence ou son enregistrement, vous acceptez d'être responsable de votre bien-être personnel. Le FE est un outil à la fois simple et très puissant, dont les résultats varient naturellement d'une personne à l'autre. Les témoignages avancés lors de cette conférence ne constituent pas une garantie que vous aurez les mêmes résultats pour vous. Consultez toujours votre médecin traitant ou un spécialiste en cas de problème médical dans son domaine de compétence. Ce cadre étant posé, j'ai le plaisir de vous présenter la conférence EFT et le choc du diagnostic grave. Cancer, Alzheimer, Parkinson et autres maladies graves, tous ces mots qui font peur. Un diagnostic qui sonne comme un verdict pour beaucoup. Est-ce là que l'histoire s'arrête ? Du moment où les soupçons commencent à se faire jour, au moment où le diagnostic tombe, c'est un ouragan de ressentis physiques et émotionnels éprouvants, douleur, peur, angoisse. Au-delà du processus médical, que pouvons-nous faire pour vivre au mieux des moments parfois désespérants et comment utiliser l'EFT pour apprivoiser un diagnostic qui peut paraître irréversible? Depuis plusieurs années, Christine, 10 ans, accompagne patients et proches dans leur itinéraire pour transformer la maladie en une occasion de mieux se connaître et d'entamer un vrai processus de bien-être qui vient de l'intérieur pour faciliter le processus de guérison. Christine a rencontré l'EFT alors qu'elle était encore ingénieure en informatique, en arrêt maladie depuis plus de 3 ans pour dépression clinique. Extrêmement sceptique pour commencer, elle a fini par se rendre à l'évidence, l'EFT marche. Après avoir évacué sa dépression à la surprise générale, elle a choisi de diriger sa vie professionnelle vers le bien-être pour tous. Un choix un peu égoïste, car comme lui dit une de ses clients, pas étonnant qu'elle soit toujours en forme à tapoter comme ça avec ses clients. Christine vit en Irlande depuis 1999 et travaille tant en anglais qu'en français grâce à Skype. C'est un plaisir pour moi d'accueillir ce soir Christine, 10 ans. Bienvenue Christine.
Eh ben merci Maria. Et puis j'en profite, merci aussi d'organiser ce congrès virtuel. Je suis enchantée d'être là d'abord bien sûr parce que j'adore parler de ma passion, mais aussi parce que la vie est une route parfois bien cabossée. Et que nous avons tous un problème ou un autre à résoudre à un moment donné. Moi aussi. Et donc je récolte régulièrement des idées utiles pour moi-même ou pour mes clients en écoutant ce genre de conférences, très nombreuses en anglais. Et j'espère que celle-ci aidera de même ceux qui l'écoutent, soit en direct, soit en réécoute par la suite, parce qu'il n'y en a pas beaucoup en français. Donc merci.
Et merci à toi d'être là pour parler de ce sujet grave mais très important et qui concerne de plus en plus de personnes autour de nous aujourd'hui. Alors justement, qu'appelle-t-on exactement un diagnostic grave ?
Alors je pense qu'un diagnostic est grave dans la mesure où vous le ressentez comme une menace majeure pour la durée ou la qualité de votre vie, ou même les deux d'ailleurs. Par exemple, si on prend le cas de l'asthme, il y a des tas de gens qui sont asthmatiques et qui vivent très bien avec leur asthme. Pourtant, pour certaines personnes, quand on leur annonce leur asthme ou celui de leur enfant, ils le prennent comme une sentence, vraiment. Donc pour eux, l'asthme est un diagnostic grave. En général, on considère quand même comme grave toute maladie qui a ce que j'appellerais une étiquette de maladie mortelle ou de maladie incurable. Alors on pense bien sûr aux cancers divers et variés, mais il y en a malheureusement bien d'autres, que ce soit les maladies de Parkinson, d'Alzheimer, les maladies du sang, la fibromyalgie, la sclérose en plaques. Il y a aussi toutes les maladies génétiques que les parents apprennent à la naissance d'un enfant. Les maladies orphelines, etc. On en entend moins parler parce que moins de gens sont concernés, mais le diagnostic est tout aussi choquant. Donc là, je prends vraiment l'adjectif grave, non pas dans le sens médical, mais dans le sens où vous le percevez. Ceci étant dit, je propose, comme on est réduit dans le temps, de nous concentrer uniquement sur le cancer, qui est ce qui touche le plus de personnes aujourd'hui, je dirais.
Alors, est-ce que l'EFT peut vraiment aider dans des cas aussi graves que le cancer ?
Alors, je vais remettre une couche, j'allais dire, sur ton avertissement. Il faut préciser que l'EFT n'est pas une procédure médicale. Je ne suis pas médecin. Il ne s'agit pas ici de prétendre guérir les cancers. Mais on peut utiliser l'EFT pour gérer les très nombreuses et très fortes émotions qui sont déclenchées dans ce genre de situation. Donc il y a toutes les peurs, comme la peur de la douleur, la peur de la dégradation, la peur de ne pas y arriver, la peur de perdre littéralement une partie de soi, jusqu'à la peur de mourir au bout du compte, qu'on a tous, mais qui à ce moment-là devient beaucoup plus, plus grosse. Et puis il y a les colères, il y a la tristesse, il y a tout le reste aussi. Donc ça c'est le côté émotion, mais ceci étant dit, on sait aussi qu'on peut utiliser l'EFT pour la douleur, et notre morale influe sur notre physique et vice versa. Il n'y a qu'à penser aux fameuses ulcères d'estomac par exemple, aux problèmes cardiaques, où le monde médical vous dit surtout pas de contrariété. D'ailleurs je te propose un petit exercice là, je vais vous donner deux thèmes, deux images. Et je voudrais simplement que vous vous concentriez sur votre corps, là tout de suite maintenant, et de noter vos propres réactions. Bon, c'est très simple, on va le faire ensemble maintenant. D'abord, on va respirer un grand coup pour aider à se concentrer. Et maintenant, imaginez un serpent, la gueule ouverte, qui va vous attaquer. Avec toutes les précisions possibles, hein, l'image, le bruit, les odeurs, etc. Notez ce que l'idée de ce serpent qui vous attaque a fait chez vous. Théoriquement, à part quelques rares personnes, votre cœur va battre différemment, vous pouvez avoir des muscles qui se tendent, il y a une réaction.
Oui.
Maintenant, si vous prenez le même processus, on va à nouveau respirer pour se calmer. Et maintenant, je vais vous demander d'imaginer un coucher de soleil, par exemple, avec le bruit de la mer ou de l'eau qui coule, avec une bonne odeur de fleurs, une sensation de fraîcheur ou de chaleur selon ce que vous préférez. Et là, notez ce qui se passe dans vos muscles, dans votre respiration, votre rythme cardiaque, etc. Théoriquement, vous sentez une différence.
Oui, tout à fait.
Donc voilà, c'est la démonstration CQFD, comme on disait quand j'étais petite, en travaillant sur nos pensées, en particulier celles qui déclenchent des émotions, nous pouvons avoir un impact sur notre santé physique.
Oui.
Vous avez peut-être déjà vu la vidéo de Carrie Gregg, la vidéo d'introduction de 7 minutes sur l'EFT. On a entre autres un exemple de 3 personnes dont on regarde le sang au microscope, avant et après l'EFT. Et on voit une différence visible après quelques minutes d'EFT, ce qui paraît assez incroyable. Personnellement, la première fois que je l'ai vu ça, je me suis dit, c'est cela, oui. Mais bon, dans la pratique depuis, j'ai constaté que, d'abord, c'est vrai, et ensuite, il y a de plus en plus d'études scientifiques qui se penchent sur l'impact de l'EFT sur la chimie de notre corps.
Oui, et, oui, tout à fait.
Et même sur l'expression de nos gènes, donc ça peut aller très très loin. Donc là, vraiment, si le travail dont nous parlons est un travail sur nos émotions, il pourrait amener un mieux au niveau physique, et ma foi, c'est un bonus, quoi.
Oui, c'est toujours ça de prix.
C'est toujours ça de prix, voilà, on ne crache pas dessus. Je peux vous citer le cas de Paula, qui est traitée par mon ami Pascal Lutz, ici en EFT. Il y a 3 ans, on lui a dit qu'il lui restait 3 mois à vivre. Donc évidemment, le diagnostic a été assez choquant. Elle a beaucoup tapoté. Elle n'était pas très pour au début d'ailleurs. Et puis, 3 ans après, non seulement elle est toujours là, mais elle a repris une grande forme. Elle a de plus en plus d'énergie. Maintenant, est-ce qu'on peut clamer au miracle EFT? Sûrement pas. Ne serait-ce que parce qu'elle utilise aussi des plantes, elle a suivi des traitements conventionnels. Et puis, c'est juste un cas parmi tant d'autres. C'est pas une étude. Mais ça existe. Et il y a beaucoup de gens qui me disent, mais ça existe vraiment, on peut vraiment s'en sortir. Ben oui, ça existe.
Oui.
Donc là, elle continue à tapoter. Hein, tous les jours, elle continue à tapoter. C'est vraiment un travail constant. Je pense aussi à un autre cas que j'avais traduit en français il y a des années, sur un cancer du pancréas qui avait disparu après 3 mois de EFT intensif, encore une fois. C'était parti sur le travail des émotions, il y avait eu un bonus au niveau physique très clair, c'est pas une preuve de miracle, mais c'est une information qui peut vous aider dans votre propre itinéraire.
L'accompagnement en EFT, bien sûr, peut soulager aussi bien le processus peut amener un mieux-être et aussi une réduction du stress qui peut y être pour beaucoup. Alors justement, dans le détail, ce travail sur les émotions, ça se passe comment ?
Eh bien, ça se passe en épluchant un peu tout ce que le diagnostic va bousculer, en nous. Par les temps qui courent, tout le monde connaît de près ou de loin quelqu'un qui est touché par l'une de ces maladies graves, en particulier par le cancer. Et on sait tous que dès que le moment où, entre guillemets, quelque chose ne va pas, et où on commence à soupçonner ce cancer, la personne concernée et son entourage font face à de grands, grands bouleversements émotionnels. Donc là, le travail que vous allez effectuer avec l'EFT va vous aider à gérer chacune de ces émotions.
Mais ça, c'est un chantier totalement titanesque. Par où commencer pour que ça devienne digérable ?
Alors justement, oui, j'aime beaucoup le mot digérable, parce que c'est une question de digestion. D'abord, il est bon de savoir où on en est. Et le plus simple pour moi, c'est encore de couper le processus de diagnostic en 4 étapes. Pour moi, la première étape, c'est les examens. Alors, on peut ou on peut ne pas avoir encore un début d'information qui parle de cancer, mais on a priori dans l'inconnu, on cherche, et quand on cherche, on s'inquiète.
Et en tout cas, on a eu cette idée dans la
tête. On a l'idée dans la tête. Donc, à partir de ce moment-là, il se passe quelque chose. Après ça, on fait tous les examens, et puis on a un temps d'attente en général avant le résultat final. Et ce temps d'attente, c'est ce qu'il y a de pire, l'attente. Parce que pendant qu'on n'a rien d'autre à faire, l'esprit tourne. Donc cette attente est assez importante. Après, il y a l'annonce des résultats elle-même, qui normalement est accompagnée de solutions envisageables, mais qui, dans certains cas, est délivrée de manière, un petit peu brutale, tout simplement, parce qu'il n'y a pas moyen de faire autrement ou autre. Et en dernier, il y a l'après-diagnostic. Une fois qu'on a reçu le diagnostic, on en fait quoi ? Voilà, c'est ces 4 étapes. Je pense qu'il faudrait au moins une journée pour discuter chacune en détail et pour voir comment utiliser l'EFT au mieux dans chaque. Mais on n'a qu'une petite heure, donc je propose de nous concentrer sur la première et la dernière étape. On va donc commencer par les examens.
D'accord. Donc, à ce moment-là, on ne sait pas encore exactement de quoi on souffre et peut-être même qu'il n'y aura pas de diagnostic grave. On est dans le doute.
Complètement. Complètement. Mais justement, à ce moment-là, on sait que quelque chose ne va pas. On a mal, en général. On est inquiet, suffisamment inquiet pour faire ces examens. Et même si on ne sait pas à quoi s'attendre, ou plutôt, surtout, parce qu'on ne sait pas à quoi s'attendre, on s'inquiète de plus en plus. Ce qu'on ne connaît pas peut s'avérer bon ou mauvais, on a tous eu des bonnes surprises. Mais la nature humaine est ainsi faite qu'on se représente plus facilement l'inconnu avec un sentiment d'insécurité, de peur, de danger. Au niveau du subconscient, il y a tout un tas de scénarios qui se jouent, qui sont parfois assez destructeurs en eux-mêmes. Quand on est en cours d'examen, pour déterminer les causes d'un ou de plusieurs symptômes, on peut facilement réagir dans les extrêmes. Donc d'un côté, on a l'extrême des gens qui sont très très démoralisés, qui vont imaginer le pire, qui rajoutent une très grosse angoisse à des douleurs physiques qui sont déjà pas faciles à gérer. Et ces gens-là vont penser à toutes les personnes malades dont elles ont entendu parler, ou qu'elles ont vu souffrir, ou qu'elles ont vu mourir aussi. Elles vont soudain entendre autour d'elles toutes les petites phrases inquiétantes, qui sont énoncées, volontairement ou non d'ailleurs, par leurs proches, au travail, dans les médias, etc. Et toutes ces pensées négatives vont activer le stress dont tu parlais au début. Et
oui,
énorme qui, à son tour, influe sur un tas d'éléments physiques, d'ailleurs, comme les sécrétions d'hormones, telles que le cortisol, qui est l'hormone du stress par excellence. Et ça va affecter aussi votre système immunitaire, parmi bien, bien d'autres effets. Donc tout ça va sûrement pas arranger le problème, quel qu'il soit. Ça, c'est un extrême. Après ça, il y a l'autre extrême de l'autre côté. Il y a les personnes positives, très positives. Alors là, je les catégoriserai en deux catégories. Il y a ce que j'appellerais les vrais positifs. Alors ça, c'est les gens qui sont vraiment intimement convaincus que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Personnellement, j'en ai peu rencontré et je ne pense pas que ces gens aient besoin vraiment de EFT ou tombent vraiment malades. Par contre, on trouve assez facilement des gens qui affichent une positivité très très positive, qui vous vont dire que tout va bien, qu'elles vont se battre, que tout se passera bien, qui vont vous servir un discours parfait, parfois trop parfait. Ça, c'est très rassurant, en fait, d'entendre ça. On se dit, tout va bien, il y a le moral, c'est bien. Mais ce qui peut arriver, c'est que parfois, pour se rassurer et rassurer ou protéger son entourage, je pense en particulier à l'entourage très proche, les enfants, le conjoint ou la conjointe, les parents, etc., on en vient à se mettre un masque pour les rassurer eux, et au final, on pourrait en venir à se cacher ses propres sentiments à soi-même. Donc dans ce cas, la première étape, c'est vraiment de sortir du déni et d'affronter ces vrais sentiments, ces vraies angoisses, pour pouvoir les nettoyer.
Et là, le EFT peut être une grande aide.
Absolument. Je repense à d'autres cas de maladie où le simple fait de prononcer le nom de la maladie déclenche une énorme angoisse et on nie la maladie, mais on sait qu'elle est là. J'aime bien les comparaisons. Et imagine que tu as un tas de vaisselle à laver. Bien sale, hein, si possible. Tout va bien, tu prends ton éponge, ton produit. Pas de problème.
Oui.
Mais là, tu dois la laver dans le noir.
Ah, ça devient plus compliqué.
C'est beaucoup plus compliqué. Donc, pour pouvoir la nettoyer correctement, il vaut mieux que tu vois où est le sale. Ben là, c'est pareil, en fait. On ne peut soigner une peur ou une tristesse ou une angoisse ou quoi que ce soit que en se l'avouant au moins à soi-même. On n'est pas obligé de la crier sur les toits, mais au moins de savoir soi où on en est. Donc voilà, ce qu'on recherche, c'est vraiment le juste milieu, c'est de savoir qu'il y a un problème, c'est clair, il peut être grave, mais en même temps de pouvoir accepter ce problème et savoir que c'est un passage, apprendre à vivre avec dans l'instant présent et savoir que nous avons en nous des ressources insoupçonnées pour vivre dans des conditions assez extrêmes, voire même, au bout du compte, pourquoi pas, la capacité de guérir.
Alors, si on prend l'exemple d'une personne qui accepte son inquiétude et qui a demandé un rendez-vous chez le médecin, mais qui n'y est pas encore, donc on est dans la phase 1, hein, dans la première phase, comment utiliser l'EFT dans ce cas de figure?
Du coup, je te propose un cas pratique, c'est encore ce qu'il y a de plus simple. Donc, on pourrait commencer par un premier protocole.
Avant de commencer à tapoter, je voudrais juste préciser deux petites choses. La première, c'est que chacun a ses points préférés. Donc, pour ma part, je commence toujours sur la tête et pour y finir, c'est un peu une manière de boucler la boucle. Et j'utilise aussi le point du foie qui est situé sous la poitrine et qui est relié à la colère, un sentiment qui est très souvent présent dans ce genre de cas, même s'il est souvent caché.
Et je rappelle que les points sont rappelés dans la page ressources sur le site. Mais les gens qui sont là commencent à avoir l'habitude et on va tâcher d'annoncer les points. Donc, vous n'avez qu'à suivre.
Bien. L'autre chose à considérer, c'est que dans la formule classique de l'EFT, on utilise « je m'aime et je m'accepte complètement ». Ceci dit, dans la situation qui nous occupe, j'ai remarqué que la majorité des gens ont en fait du mal à adhérer à cette formule. Et même à vrai dire que ça peut mettre carrément mal à l'aise, ce qui n'est pas exactement l'objectif à atteindre. Donc j'utilise des variantes sont là pour ouvrir d'autres portes plutôt que cette formule-là. D'accord. Voilà, comme ça, personne ne sera surpris. Et je vais vous demander donc de commencer par vous concentrer sur ces fameux examens. Alors, j'ai conscience que dans les gens qui nous écoutent, tout le monde n'est pas à ce moment précis où on est en train de passer des examens, où on a un doute sur une maladie grave qui va arriver derrière. Par contre, l'une des beautés de l'EFT, c'est ce qu'on appelle les bénéfices empruntés, qui fait que si vous tapotez sur un sujet qui ne vous concerne pas directement, mais que vous tapotez avec tout le monde, vous pouvez avoir des bénéfices sur un problème que vous avez vous personnellement. Donc si vous n'êtes pas directement concerné par cette situation d'incertitude, vous avez peut-être une autre situation d'incertitude sur laquelle vous pouvez vous concentrer, pour vous ou pour une autre personne. Voilà, donc pour ma part, je vais me concentrer sur le cas d'une personne qui est vraiment en cours d'examen, à la recherche de la cause de ses douleurs et des autres symptômes de manière assez générale.
Et on peut dire aussi que si vous avez traversé cette situation il y a des années ou dans le passé, vous pouvez aussi repenser à cette situation-là.
Absolument. Donc la première chose à faire, c'est de se concentrer sur votre inquiétude. On va respirer profondément pour mieux se concentrer. Et notez quelle est votre inquiétude et notez quelle intensité elle a, de 0 à 10. Hein, 0, il n'y a pas d'inquiétude du tout, tout va bien. 10, je suis vraiment très, très, très inquiète. Voilà. Et quand vous êtes prêts, on va commencer par le point de karaté. Et Maria, tu vas faire mon écho?
Oui, bien sûr.
Alors, point de karaté. Même si je suis très inquiète de savoir où tous ces tests m'emmènent.
Même si je suis très inquiète de savoir où tous ces tests m'amènent.
J'aimerais pouvoir croire que je suis en sécurité.
J'aimerais pouvoir croire que je suis en sécurité.
Même si j'ai cette inquiétude en moi.
Même si j'ai cette inquiétude en moi.
Et que ça n'est pas très agréable.
Et que ce n'est pas très agréable.
Je choisis de respirer profondément dans l'instant présent.
Je choisis de respirer profondément dans l'instant présent.
Et il est bon de joindre le geste à la parole, oui.
Oui.
Même si je suis inquiète de ces tests qui n'en finissent pas.
Même si je suis inquiète de ces tests qui n'en finissent pas.
Et que ma vie peut basculer d'un instant à l'autre.
Et que ma vie peut basculer d'un instant à l'autre.
Je ne fais absolument rien pour le moment.
Je ne fais absolument rien pour le moment.
Et j'aimerais être ouverte à la possibilité.
Et j'aimerais être ouverte à la possibilité.
Que je peux évacuer une partie de cette inquiétude au moins, ici et maintenant.
Que je peux évacuer une partie au moins de cette inquiétude, ici et maintenant.
Voilà, au-dessus de la tête, cette inquiétude.
Cette inquiétude.
Début du sourcil. Je la sens dans mon corps.
Je la sens dans mon corps.
Côté de l'œil. Et là, chacun a ses propres endroits, mais quelques exemples. Dans ma gorge, dans ma tête.
Dans ma gorge, dans ma tête.
Sous l'œil, dans mon cœur.
Dans mon cœur.
Sous le nez. J'en perds le sommeil.
J'en perds le sommeil.
Sous le menton. Je suis sûre que c'est grave.
Je suis sûre que c'est grave.
Clavicule, j'ai peur de souffrir encore plus.
J'ai peur de souffrir encore plus.
Sous le bras, les examens me font souffrir et j'ai peur de ce qui va se passer.
Ces examens me font souffrir et j'ai peur de ce qui va se passer.
Sous la poitrine, toute cette peur dans mon corps.
Toute cette peur dans mon corps.
Au-dessus de la tête. Et plus je m'inquiète et plus je me sens mal.
Et plus je m'inquiète, plus je me sens mal.
Début du sourcil, c'est un cycle infernal.
C'est un cycle infernal.
Côté de l'œil, je me sens entraînée vers le bas.
Je me sens entraînée vers le bas.
Sous l'œil, je me demande si je pourrais changer ce cycle.
Je me demande si je pourrais changer ce cycle.
Sous le nez, plus je m'inquiète et plus les examens sont difficiles.
Plus je m'inquiète et plus les examens sont difficiles.
Sous le menton, et plus je fais d'examens et plus je m'inquiète.
Et plus je fais d'examens, et plus je m'inquiète.
Clavicule, pourtant, plus on fait des examens, plus le diagnostic sera précis.
Et pourtant, plus on fera d'examens, plus le diagnostic sera précis.
Sous le bras. Donc ces examens pourraient être une bonne chose, finalement, une étape vers une solution.
Donc ces examens pourraient être une bonne chose, finalement, une étape vers une solution.
Sous la poitrine. Chaque examen amène une pièce au puzzle.
Chaque examen amène une pièce au puzzle.
Au-dessus de la tête. Alors finalement, peut-être que ce que j'ai de mieux à faire...
Alors finalement, peut-être que ce que j'ai de mieux à faire...
Début du sourcil. Ce serait de me détendre pour que les examens se déroulent au mieux.
Ce serait de me détendre pour que les examens se déroulent au mieux.
Et continue à penser à bien respirer pendant qu'on tapote. Hein. Côté de l'œil, j'ai besoin de conserver toutes mes forces pour avancer à l'étape suivante, quelle qu'elle soit.
J'ai besoin de conserver toutes mes forces pour avancer vers l'étape suivante, quelle qu'elle soit.
Sous l'œil. Mon corps fonctionne de travers quand je suis stressée et ça ne va pas arranger les résultats des examens.
Mon corps fonctionne de travers quand je suis stressée et ça ne va pas arranger les résultats des examens.
Sous l'œil. Alors, puisque je ne sais pas encore ce qui se passe.
Alors, puisque je ne sais pas encore ce qui se passe.
Sous le menton. Je pourrais... Choisir d'autoriser mon cœur à battre paisiblement.
Je pourrais autoriser mon cœur à battre paisiblement.
Clavicule. Je pourrais choisir de sentir mes muscles détendus.
Je pourrais choisir de sentir mes muscles détendus.
Sous le bras. Je pourrais choisir d'apprécier le simple fait de respirer ici et maintenant.
Je pourrais choisir d'apprécier le simple fait de respirer ici et maintenant.
Sous la poitrine, je pourrais même choisir de me sentir en paix avec moi-même.
Je pourrais même choisir de me sentir en paix avec moi-même.
Au-dessus de la tête, juste pour un instant, juste pour voir comment ça fait.
Juste pour un instant, juste pour voir ce que ça fait.
Toujours au-dessus de la tête, dans mon corps, mon cœur et mon esprit.
Dans mon corps, mon cœur et mon esprit.
Merci.
Merci.
Respirez profondément. si vous avez un verre d'eau ou une tisane à portée de la main, c'est une bonne idée de boire en même temps.
Tout à fait.
C'est ce que je fais. Et voilà. Et là, remesurez votre inquiétude. Et voyez ce qui s'est passé. Dans ce qui peut s'être passé, en fait, il y a 4 possibilités, en général. La première possibilité, c'est que votre inquiétude a complètement disparu. Ça arrive, hein? C'est un vrai plaisir. Ça arrive plus souvent qu'on ne le pense, mais sachez que c'est quand même assez rare. Dans le cas présent, on est vraiment à la toute première série, dans une situation très lourde et avec beaucoup, beaucoup d'inconnus. Donc, si votre inquiétude là maintenant a complètement disparu, c'est parfait, merveilleux. On va pouvoir passer à autre chose.
Oui.
Le deuxième cas est quand même le plus commun, c'est que vous êtes toujours inquiet, mais l'intensité a baissé. Dans ce cas, je vous conseillerais de refaire la série en vous concentrant sur le reste d'inquiétude, quelque chose du genre, même si je suis encore inquiet, je suis reconnaissante que ce soit un tout petit peu moins. De bien mettre cette idée de gratitude que je mets dans le merci, que je mets à la fin de chacun de mes séries, de reconnaître au moins un petit côté positif, aussi minime soit-il.
Oui, de reconnaître que ça va dans le bon sens.
Voilà. La troisième possibilité, donc première possibilité, tout a disparu. Deuxième, l'intensité a baissé. Troisième, c'est qu'il n'y a pas de changement. Là, en général, c'est qu'on est sur la mauvaise cible. Je me rappelle d'un atelier sur le stress avec des parents d'enfants autistes. Donc, on a tapoté sur le stress et ça a aidé beaucoup de personnes. Mais il y avait une personne qui n'avait aucun résultat alors que tout le monde retrouvait le sourire vraiment. Et en explorant les situations, avec sa permission bien sûr, il s'est avéré qu'elle était en fait très très en colère contre son enfant. On est tous humains, il n'y a pas de sentiments qui sont autorisés ou pas autorisés. Donc voilà, là c'était de la colère. Nous avons donc fait une série sur la colère et là son visage s'est vraiment calmé. Elle a vraiment retrouvé la paix. Je voudrais juste revenir sur le fait que aucun sentiment n'est mauvais. Quel que soit le sentiment qui vous vient à l'esprit, le FT demande vraiment une très très grande honnêteté vis-à-vis de soi-même pour avoir des résultats.
Oui, donc si vous avez d'autres émotions qui montent, là tu as pris l'exemple de l'inquiétude et de l'angoisse, mais peut-être qu'il y a des personnes pour qui ça déclenche aussi de la peur, de la colère, de la tristesse. Tout est bon à prendre. On peut remercier aussi pour ces signaux d'alarme qui surveillent.
Absolument. N'hésitez pas à changer quand on vous propose des séries, n'hésitez pas à les adapter pour vous-même bien sûr. Donc on a fait premier cas, plus d'inquiétude, deuxième cas, l'intensité a baissé, troisième cas, pas de changement, quatrième cas. Alors c'est de loin le plus rare, mais ça peut arriver. C'est quand l'inquiétude augmente, l'inquiétude ou tout autre sentiment. Dans ce cas-là, la première chose à savoir, ça va peut-être pas vous plaire beaucoup, mais c'est que c'est une bonne nouvelle. Alors je sais que dans ce cas-là, on trouve pas ça drôle du tout.
Ouais, youpi.
Oui, non, c'est pas drôle du tout. Mais quand on y pense, une augmentation est une réaction, en fait. Excusez-moi. Une augmentation, c'est donc une réaction. Donc, pour commencer, c'est la preuve que l'EFT a une action. Ensuite, c'est un indice. C'est que vous êtes probablement sur la bonne piste, peut-être sur la piste de quelque chose de plus gros que ce que vous visiez. Peut-être que vous vous rappelez un traumatisme que vous aviez oublié et sur lequel vous allez devoir travailler. Peut-être aussi que vous aviez l'impression que c'était pas si grave que ça, que vous n'étiez pas particulièrement inquiet de quelque chose et que finalement, en tapotant dessus et en y réfléchissant, ben ça vous touche plus que ce que vous pensiez. Donc dans ce cas-là, il y a deux possibilités. La première, c'est que vous avez l'habitude de tapoter, vous vous sentez à l'aise. Et là, c'est absolument le moment d'approfondir. Et c'est dans ces moments-là que l'avertissement que tu as donné, Maria, au tout début, prend tout son sens. C'est vraiment vous qui gardez la responsabilité de votre bien-être et de ce que vous voulez faire. La deuxième possibilité, c'est que justement, parce que vous avez la responsabilité de votre bien-être, vous savez que vous ne vous sentez pas de taille à continuer sur cette route-là, seul, dans ce cas-là, je vous conseille très très fortement de rechercher l'assistance d'un thérapeute.
Oui. D'accord. Donc, ce protocole, ce tapping, peut aider à gérer l'angoisse pendant les examens. Et qu'est-ce qu'on peut faire après, en attendant les résultats, et surtout en les recevant, en sachant que cette attente peut être longue. Enfin, je ne sais pas comment ça se passe en Irlande, Christine, mais je connais des personnes dans ce cas-là qui ont attendu des quinzaines de jours avant d'avoir les résultats.
Oui, on ne va pas parler du système de santé d'Irlande, on va éviter.
Non.
L'attente des résultats, oui, c'est un moment d'autant plus important, comme on l'a dit avant, parce que on ne sait rien, on n'a pas forcément quelque chose à faire, et là, bah, ça tourne dans la tête. Donc, on n'a pas vraiment le temps d'en parler en détail. Vous pouvez reprendre la série qu'on vient de faire et la transformer très légèrement en parlant des résultats au lieu de parler des examens. Une autre possibilité, c'est de faire ce que j'appellerais une visualisation par anticipation, où vous allez imaginer le moment où vous allez recevoir le résultat, mais vous allez le faire en tapotant, ce qui va vous permettre d'éliminer au maximum le choc en avance. Donc si ça vous intéresse, il y a plusieurs études de cas sur mon site avec des idées de séries EFT qui s'appliquent à cette approche et qui vous aideront à appliquer ceci.
D'accord.
Je suppose que... Alors après ça... Pour le moment où on reçoit le diagnostic.
Oui, c'est ça le pire moment en fait. Qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-là?
Absolument. D'ailleurs, quand on parle du choc du diagnostic, la plupart des gens pensent uniquement à ce moment-là. Mais c'est beaucoup plus que juste ce moment-là. Il faut savoir d'abord que la préparation, c'est vraiment la moitié du succès, si on peut parler de succès dans ce cas-là. C'est pour ça qu'on a passé du temps sur les examens et puis un tout petit peu de temps là sur la préparation, sur l'attente. Donc, en supposant que vous êtes préparé, que vous avez fait cette visualisation par anticipation avant, que vous avez nettoyé au fur et à mesure toutes vos anxiétés avant de recevoir le diagnostic, vous pourriez arriver a priori relativement détendu chez le médecin qui va vous l'annoncer. Je dis bien relativement, hein. Ce qui n'empêche que quand vous allez recevoir le diagnostic lui-même, vous allez probablement avoir un choc, voire même un très gros choc. Quand on rentre dans les détails exactement, c'est là que tout se met en place et c'est là qu'on prend vraiment, qu'on réalise de plein fouet. Donc très très brièvement, il y a quelques règles simples qui peuvent vous permettre de passer le cap le plus facilement possible. L'idéal serait évidemment de tapoter sur tout ce qui vous passe par la tête à ce moment-là. La panique, la peur de l'inconnu, de la douleur. Mais si vous vous mettez à tapoter face à un médecin qui ne connaît rien de l'EFT et de ses vertus, il risque de rajouter à sa liste une note exprimant des doutes sur votre santé mentale.
Oui, en effet.
Donc, même s'il y a de plus en plus de médecins qui s'intéressent à l'EFT, on va rester réaliste, c'est pas le moment idéal pour tapoter de la manière habituelle. Par contre, c'est un bon moment pour vous concentrer sur votre respiration. Ça aussi, ça se prépare d'ailleurs. Et plus vous avez pratiqué avant, plus votre réponse sera facile et automatique au moment où vous en aurez vraiment besoin. Alors, vous allez me dire, mais je respire tous les jours, je vois pas où est le problème. La respiration, en fait, vous permet de gérer votre corps et de vous calmer. On pourrait le faire là très très simplement. Une visualisation que vous pouvez faire en respirant, c'est d'inspirer le bien-être que vous pouvez éventuellement associer à une couleur et d'expirer tout ce dont vous n'avez pas besoin. La peur, par exemple. Imaginons que vous ressentiez une peur au creux de votre estomac et que vous la voyez noire et que pour vous, vous préféreriez avoir de la lumière qui soit jaune. Vous allez inspirer en imaginant le jaune qui rentre dans votre respiration, qui descend dans votre ventre. Et en expirant, vous allez ressortir tout le noir et toute la peur qui était avec. Donc vous expirez toutes les toxines et les angoisses dont vous n'avez plus besoin. Alors le faire une fois là comme ça en passant, ça va pas vous apporter grand chose. Mais si vous faites cet exercice plusieurs fois et que vous le faites par exemple tous les jours, au moment où vous allez recevoir le diagnostic, ça va arriver comme une habitude, une réaction habituelle qui vous permet de laisser le diagnostic passer autour de vous sans vous atteindre trop à ce moment-là. Vous pouvez aussi le faire en mettant la main sur votre cœur et en tapotant légèrement du bout des doigts. C'est un point d'acupuncture, c'est un point d'EFT, mais ça, c'est un geste qui est tout à fait acceptable pour des gens autour de vous qui ne connaissent pas l'EFT et ça peut vous aider à vous détendre.
Oui, tout à fait.
Voilà. Donc, je voudrais simplement revenir sur le concept de traumatisme. Un traumatisme, en fait, il y a énormément de définitions, évidemment, mais celle que je préfère, c'est la définition d'un événement où l'on perçoit une menace qui est interprétée comme une situation de vie ou de mort et contre laquelle on est totalement impuissant. Donc ces dimensions d'impuissance et d'interprétation sont vraiment capitales et expliquent notamment pourquoi tellement de traumatismes qui sont a priori mineurs dans l'enfance sont très mal vécus et ressortent beaucoup plus tard comme des moments importants de la vie. Je pense par exemple à un enfant qui reçoit des moqueries de camarades à l'école, qui était très timide à ce moment-là, personne ne l'a vraiment aidé à ce moment-là à répondre, et depuis, l'adulte se trouve un petit peu paniqué dès qu'il y a le moindre élément de moquerie, même si c'est une moquerie gentille, qui vient d'une autre personne. Donc on part de quelque chose d'anodin et on finit sur vraiment un traumatisme. Donc, dans le cas qui nous occupe, le diagnostic, c'est loin d'être un événement trivial. Mais par contre, on n'est plus autant en situation d'impuissance. Parce que vous êtes en train de vous préparer. Et si vous écoutez cette conférence, c'est que vous avez décidé de prendre votre santé et votre bien-être en main. Donc, ça ne veut pas dire, attention, hein, ça ne veut pas dire que vous allez partir dans votre coin pour vous mitonner votre guérison tout seul comme un grand. Mais, ça veut dire que vous allez prendre une part active dans votre guérison, en dialoguant avec le corps médical par exemple, en comprenant ce qui se passe et les solutions possibles, ça veut dire que vous n'êtes pas en situation d'impuissance. Bon, ça ne veut pas non plus dire que vous allez vous transformer en cancérologue par exemple. Mais vous allez bel et bien vous transformer en spécialiste de votre vie et de votre guérison.
Oui, et dans une certaine mesure, ça vous permettra de reprendre le pouvoir sur ce processus.
Absolument. Pensez à un pilote de Formule 1. Le pilote, sans sa machine, il va pas aller bien loin. Donc, le pilote, c'est vous. La machine, c'est votre corps. Maintenant, le pilote doit savoir comment conduire sa machine, comment elle va réagir dans telle ou telle situation. Mais, pour ce qui est de prendre soin de la mécanique, a priori, il travaille en parfaite confiance avec une équipe de mécanos. C'est votre équipe médicale. Donc, vous n'êtes pas obligé de tout savoir dans les détails. Par contre, si vous êtes en confiance avec votre équipe et que vous apprenez à connaître votre machine, donc votre corps, alors c'est bien vous qui gardez les rênes. Pour beaucoup de gens, le diagnostic est un traumatisme parce qu'ils n'ont pas vraiment été préparés à recevoir. Du coup, ils ne savent pas quoi en faire. Ce qui n'est pas votre cas, encore une fois, puisque vous êtes en train de vous préparer au niveau émotionnel. Ce qui change beaucoup de choses. Par exemple, que vous allez recevoir tout à fait consciemment ce choc. Vous savez que ça va arriver, donc vous êtes préparé. J'ai une autre analogie. Vous connaissez peut-être la fable de La Fontaine avec le chêne et le roseau, le chêne qui se dit tellement solide et qui résiste à toutes les tempêtes jusqu'au jour où il y a une plus grosse tempête, c'est votre diagnostic, et lui, il est déraciné. Le roseau, par contre, il sait que toutes les tempêtes sont difficiles. Il se prend pas pour quelqu'un d'invincible. Il va recevoir le choc du vent, il va plier, il va en être affecté de la même manière que vous allez être affecté par votre diagnostic. C'est humain. Mais il va laisser passer le choc. Il va plier et se redresser. Et pour vous aussi, vous allez apprendre à laisser passer le diagnostic, le choc du diagnostic, de manière à rester concentré sur votre guérison. Et puis en plus, je vous ai pas tout dit, en fait, vous pouvez tapoter discrètement et en public. Il y a même deux choix d'ailleurs. Le premier, c'est d'imaginer que vous tapotez. Donc, en fait, vous imaginez dessus de la tête, tap, 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 début du sourcil, tap, 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 tap. Ça demande un peu de concentration, c'est assez difficile à faire pendant que le médecin vous parle, mais ça peut être très utile, par exemple, dans la salle d'attente. Vous pouvez vous dire, même si je suis un petit peu énervée, dessus de la tête, tap, 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 début du sourcil, je choisis de respirer, tap, 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 tap. C'est une habitude à prendre.
Oui, et là, une fois de plus, on peut, ça sera d'autant plus facile que vous l'ayez déjà fait tranquillement à la maison et que votre corps et votre tête sont habitués à utiliser cette pratique.
Tu as pris les mots de ma bouche.
Ah, pardon.
Et la deuxième technique, c'est d'utiliser le EFT discret sur les mains, qui consiste, pour ceux qui ne connaissent pas, à tapoter du bout des doigts sur le bord de l'ongle vers la partie interne de la main, soit avec le pouce de la même main, soit avec un doigt de l'autre main. Et c'est quelque chose que vous pouvez faire de manière très très discrète. Par exemple, si vous croisez vos bras, il y a une main qu'on ne voit pas, ou bien vous pouvez mettre la main sous la table ou sous un manteau. Pas besoin non plus de dire quoi que ce soit, concentrez-vous simplement sur votre respiration et sur vos émotions en ce moment-là, et continuez. Et Maria, le simple fait que tu m'aies pris les mots de la bouche, ça montre bien, pour ceux qui nous écoutent, que c'est connu de tous, en fait, que le fait de que plus on s'entraîne et plus ça va vite derrière.
Oui, tout à fait. D'où l'importance de se préparer.
Voilà.
Et après, qu'est-ce qui va se passer une fois que ce diagnostic est tombé? Que peut-on faire pour faciliter sa digestion, disons?
Alors, ben justement, oui, tu avais déjà parlé de digestion un petit peu plus haut, au moment où la ligne était tellement mauvaise, donc je ne sais pas si on a entendu. Mais l'idée, c'est de d'abord s'assurer que le diagnostic a été digéré dans la mesure du possible. Pour savoir si vous avez digéré votre diagnostic, le meilleur indicateur, c'est de savoir si vous pouvez en parler sans avoir de réaction anormale que vous allez trouver dans votre corps. Ces réactions sont propres à chacun de nous. Pour certaines personnes, c'est le cœur qui se met à battre trop vite. Pour d'autres, c'est l'estomac qui sort. Pour d'autres, c'est les jambes qui lâchent. Ou c'est un geste, un tic, ou les mains moites, ou qui tremblent. Quels que soient vos indicateurs, tant qu'ils se déclenchent parce que vous parlez de votre diagnostic, c'est que vous n'avez pas encore digéré. Donc dans ce cas-là, je vous suggère vraiment fortement d'y retravailler. Il y a plusieurs manières de s'y prendre. Ma préférée est le matrix reimprinting, qui consiste, on va dire, à revivre le moment du diagnostic en spectateur actif et bien sûr positif, et d'éliminer au fur et à mesure le choc. Mais bon, ça c'est encore un sujet à part entière qui est, et puis c'est difficile à faire seul.
Oui. Tout à fait.
L'autre option, c'est que l'EFT classique, qu'on peut utiliser de tas de manières différentes. Je pense au cas d'une personne, d'ailleurs, on va l'appeler Julie, qui a vécu deux cancers, un mélanome et un cancer du sein. On avait commencé à travailler ensemble après les cancers, alors qu'elle subissait une très grosse dépression. Et un jour, elle est arrivée vraiment très mal encore, parce qu'une amie très proche venait d'apprendre qu'elle avait aussi un mélanome. Donc on a tapoté ensemble sur tous les aspects de sa propre réaction et en particulier sur le fait de s'angoisser et le fait qu'elle n'allait pas pouvoir aider son amie et être présente pour son amie si elle s'angoissait elle-même. Donc on s'est concentré sur l'amitié qu'elle ressentait, sur les parties du diagnostic qui n'avaient pas encore été nettoyées pour elle à ce moment-là. Elle a puisé dans tout ça une nouvelle force, elle est repartie avec un grand sourire. Et elle m'a dit par la suite avoir été vraiment très à l'aise en revoyant son amie et présente vraiment pour l'aider. Donc il y a d'autres cas similaires, il y en a un autre qui est documenté sur mon site d'ailleurs comme ça. Mais le point vraiment, c'est que le meilleur moyen de se débarrasser d'une peur est d'y faire face. Et avec l'EFT, ça simplifie beaucoup la vie.
Oui, bien sûr. Mais ce n'est pas parce qu'on a accepté un diagnostic que tout est résolu. Qu'est-ce qui se passe après ?
Ben oui, ça serait trop facile.
Oui.
Ça serait trop simple. Bon, mettons-nous donc dans la situation, vous avez reçu le verdict. Donc vous avez maintenant une étiquette qui est apposée à votre cas, entre guillemets. vous êtes devenu une personne qui souffre de telle ou telle maladie. Et une fois que l'étiquette est apposée, on peut être tenté de se laisser porter par cette étiquette, de confondre la maladie avec qui nous sommes vraiment. On va plus présenter, par exemple, en disant « Bonjour, je suis Christine et dans la vie, j'aime faire ceci et cela ». Non, non. À la place, on va finir par se présenter en disant « Bonjour, je suis Christine et j'ai tel cancer ». Et la maladie devient en fait le centre de toutes nos pensées et de celles de notre entourage. Et c'est là que commence un autre cercle vicieux. Tant que vous associez la maladie à votre personne, il est très difficile d'imaginer un futur sans elle, puisque vous vous identifiez à elle. S'il n'y a plus de maladie, il n'y a plus de vous. C'est un peu résumé, mais pas tant que ça. En fait, c'était mon cas, tu as parlé de ma dépression au début. Pendant des années, je me suis imaginé que le jour où j'aurais plus de dépression, il y aurait plus de moi.
Oui.
Donc ça m'a aidé pendant tout ce temps-là. Et puis un jour, j'ai découvert l'EFT, une autre manière de voir les choses.
Oui, tout à fait.
Donc voilà, peut-être qu'on pourrait faire une deuxième série EFT là-dessus.
Oui, allons-y. Et je pense que nous pouvons tous, même si vous n'êtes pas dans ce cas-là, vous pouvez tous penser à une personne que vous connaissez qui est comme ça, qui s'identifie à sa maladie et qui se l'est appropriée, effectivement. Dans quel cas, ça peut devenir dangereux, en tout cas compliqué pour elle de s'en débarrasser.
Absolument. Donc, on va prendre le cas d'une personne qui a reçu son diagnostic. Respirez à nouveau. Concentrez-vous sur cette maladie, ce diagnostic, ce que cet aspect amène dans votre vie. Et détendez-vous et on va tapoter là-dessus. Donc notez votre intensité de 0 à 10. Et on va commencer sur le point de karaté. Même si cette maladie est en train d'envahir ma vie.
Même si cette maladie est en train d'envahir ma vie.
Et que je me sens perdue.
Et que je me sens perdue.
Je choisis de savoir tout au fond de moi.
Je choisis de savoir tout au fond de moi.
Qui je suis vraiment.
Qui je suis vraiment.
Même si je me sens sans défense face à cette maladie.
Même si je me sens sans défense face à cette maladie.
J'aimerais pouvoir croire que j'ai en moi des ressources insoupçonnées.
J'aimerais pouvoir croire que j'ai en moi des ressources insoupçonnées.
Même si cette maladie a pris le contrôle de ma vie.
Même si cette maladie a pris le contrôle de ma vie.
J'aimerais être ouverte à la possibilité.
J'aimerais être ouverte à la possibilité.
Que je peux reprendre ma vie en main.
Que je peux reprendre ma vie en main.
Au-dessus de la tête, cette maladie.
Cette maladie.
Début du sourcil. Ils m'ont dit que je ne guérirai jamais.
Ils m'ont dit que je ne guérirai jamais.
Côté de l'œil, ils m'ont prévenu que j'allais souffrir énormément.
Ils m'ont prévenu que j'allais souffrir énormément.
Sous l'œil, ils ne peuvent même pas me garantir que je ne souffrirai pas.
Ils ne peuvent même pas me garantir que je ne souffrirai pas.
Sous le nez, ce choc.
Ce choc.
Sous le menton, cette maladie.
Cette maladie.
Clavicule, comment fait-on pour vivre avec ça?
Comment fait-on pour vivre avec ça?
Sous le bras, et comment vais-je le dire à mes proches?
Et comment vais-je pouvoir le dire à mes proches?
Sous la poitrine, mon conjoint, mes enfants, frères, sœurs, parents, amis.
À mon conjoint, mes enfants, mes frères et sœurs, parents, amis.
Au-dessus de la tête, comment vont-ils réagir?
Comment vont-ils réagir?
Début du sourcil, j'ai tellement de sentiments qui se bousculent dans ma tête.
J'ai tellement de sentiments qui se bousculent dans ma tête.
Côté de l'œil, je ne peux pas réfléchir.
Je ne peux pas réfléchir.
Sous l'œil, je ne veux pas réfléchir.
Je ne veux pas réfléchir.
Sous le nez, c'est beaucoup trop difficile.
C'est beaucoup trop difficile.
Sous le menton, je ne sais pas quoi faire de cette maladie.
Je ne sais pas quoi faire de cette maladie.
Clavicule, et d'abord, j'en veux vraiment pas.
Et d'abord, je n'en veux vraiment pas.
Sous le bras, je refuse complètement ce diagnostic.
Je refuse complètement ce diagnostic.
Sous la poitrine, et tout ce qui va avec.
Et tout ce qui va avec.
Au-dessus de la tête, c'est beaucoup trop difficile.
C'est beaucoup trop difficile.
Début du sourcil. Je vais jamais y arriver.
Je ne vais jamais y arriver.
Côté de l'œil, j'aurai jamais la force.
Je n'aurai jamais la force.
Sous l'œil. Et pourquoi moi?
Pourquoi moi?
Sous le nez. Je ne peux pas vivre avec ça et je refuse.
Je ne peux pas vivre avec ça, je refuse.
Sous menton. D'un autre côté, maintenant au moins, je sais à quoi m'en tenir.
D'un autre côté, maintenant au moins, je sais à quoi m'en tenir.
Clavicule. Maintenant, je pourrais peut-être me concentrer sur mon futur à la place.
Maintenant, je pourrais peut-être me concentrer sur mon futur à la place.
Sous le bras. Je pourrais chercher à comprendre comment guérir.
Je pourrais chercher à comprendre comment guérir.
Sous la poitrine. Je pourrais même choisir de guérir.
Je pourrais même choisir de guérir.
Au-dessus de la tête. Ça paraît un peu trop facile.
Ça paraît un peu trop facile.
Début du sourcil. Mais après tout, j'ai autour de moi une structure médicale compétente.
Mais après tout, j'ai autour de moi une structure médicale compétente.
Côté de l'œil. J'ai des proches et des gens qui m'aiment plus que je n'avais jamais réalisé.
J'ai des proches et des gens qui m'aiment plus que je n'avais jamais réalisé.
Sous l'œil. Et puis j'ai ma vie à moi.
Et puis j'ai ma vie à moi.
Sous le nez, j'ai tout ce que j'aime faire dans ma vie.
J'ai tout ce que j'aime faire dans ma vie.
Sous le menton. Comme de marcher en forêt, de nager.
Comme marcher en forêt, nager.
Clavicule, escalader une montagne, créer des jolies choses.
Escalader une montagne, créer des jolies choses.
Sous le bras, passer un moment en famille ou entre amis.
Passer un moment en famille, entre amis.
Sous la poitrine, c'est vrai, cette maladie change beaucoup de choses.
C'est vrai, cette maladie change beaucoup de choses.
Au-dessus de la tête. Mais pour l'instant, je suis là.
Mais pour l'instant, je suis là.
Et je choisis de vivre ma vie pleinement.
Et je choisis de vivre ma vie pleinement.
Toujours au-dessus de la tête, dans mon corps, mon cœur et mon esprit.
Dans mon corps, mon cœur et mon esprit.
Merci.
Merci.
Et respirez un grand coup. Pardonnez l'autre. Buvez un petit peu. Pas de whisky, si possible.
Oui. Merci, ça fait du bien.
Voilà. Et là, vous, comme d'habitude, vous remesurez votre sentiment, dans quel état vous vous sentez. Soit c'est vous avez trouvé vraiment la paix sur cet aspect-là et vous pouvez passer à autre chose. Soit vous devez retravailler et vous le reprenez un petit peu.
D'accord.
Donc, ce moment, en fait, où vous faites connaissance avec la maladie est capital. C'est vraiment un moment clé pour choisir ce que vous voulez faire de ce diagnostic. Est-ce qu'il va détruire votre vie, l'envahir de force, ou bien est-ce que vous allez l'associer à votre vie et travailler avec lui pour retourner vers un état de santé positif? C'est votre réaction, et elle est capitale, quelle que soit la gravité annoncée du diagnostic.
Oui, il y a quand même une notion de choix.
Il y a quand même une notion de choix. J'aime bien l'histoire d'un journaliste américain du nom de Norman Cousins. Alors, c'était avant l'EFT. Il a récapitulé son histoire dans un livre dont le titre me plaît beaucoup, qui s'appelle « Comment je me suis soignée par le rire ». Bon, ça n'a pas l'air très sérieux comme ça, mais ça l'est totalement. Il y raconte comment, à 49 ans, il a appris qu'il avait en gros une chance sur 500 de survivre à une maladie extrêmement rare, qu'il avait complètement paralysé. Et il a décidé de prendre les choses en main. Donc il est sorti du système hospitalier et il avait découvert, entre autres, que les émotions négatives pouvaient dégrader la santé. On est en 1964, donc c'est quand même il y a un moment. C'était pas très à la mode. Mais il s'est dit, si ça marche dans un sens, ça doit pouvoir marcher dans l'autre sens. Donc il a testé. Et il a vite découvert, entre autres, que en regardant des comédies qui le détendaient, 10 minutes de fou rire, de bon fou rire, lui donnait en fait 2 heures de sommeil sans douleur. C'était pas mal comme marché.
Oui,
donc, il a continué, voilà, il a continué sur la même lancée et petit à petit il est sorti de sa maladie. Il est bien décédé, 26 ans plus tard. Donc, pas du tout de cette maladie-là. Entre-temps, il avait repris une vie normale. C'est pas une preuve scientifique, c'est un témoignage, mais c'est un témoignage intéressant.
Oui, et qui donne de l'espoir.
Qui donne de l'espoir sur le fait qu'on peut prendre les choses en main. Ça me rappelle aussi une autre personne avec laquelle j'ai travaillé assez récemment. Alors là, c'est un cas complètement différent. C'était pas grave du tout. On lui avait retiré une petite hernie abdominale. Par contre, le chirurgien l'avait copieusement, averti que parce qu'elle était très très mince et du fait de l'endroit où se trouverait la cicatrice, juste sur le sternum, cette cicatrice serait extrêmement douloureuse. Il l'a même réaverti sur la table d'opération, donc vraiment beaucoup. Et deux jours après l'opération, en moins d'une heure de FT, qui c'était sa toute première expérience, la douleur était quasiment partie, elle pouvait se tenir droite, elle pouvait tendre les bras plus librement. Donc physiquement, c'était une transformation, parce que quand je suis arrivée, dans ce cas-là, je suis allée chez elle, quand je suis arrivée chez elle, elle était vraiment courbée en deux. Et puis, elle était très, très sceptique sur l'EFT, il faut dire ce qui est. Mais une fois tous ces bons résultats atteints, une fois l'étonnement passé, ce qui était intéressant, c'est la question qu'elle se posait, qui la tracassait le plus, c'était « Mais pourquoi donc m'a-t-il tant prévenu que ce serait douloureux ?» Et même chose, pourquoi est-ce que le médecin de Norman Cousins lui avait dit qu'il avait une chance sur 500?
Oui.
Quand on vous avertira d'une difficulté, pensez-y. Il ne s'agit pas d'ignorer, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais bien de savoir que chaque cas est différent et que personne ne peut dire avec certitude comment vous allez réagir. On pense encore à Paula qui, il y a 3 ans, a reçu l'information qu'elle n'avait plus de 3 mois à vivre. Pour revenir à ma cliente, là, cette personne s'est vraiment laissée impressionner complètement malgré elle par des mises en garde excessives d'un chirurgien qui, de son côté, pensait agir de manière nécessaire et honnête. Et oui, ma cliente n'est pas du tout une personne qui se laisse impressionner facilement. Elle mène beaucoup de choses de front et c'est pas quelqu'un qui est facilement impressionné. Donc tout le monde peut se tromper avec les meilleures intentions du monde.
Oui, et puis une pensée qu'on peut avoir à ce moment-là aussi, c'est que, tiens, ce chirurgien-là, il ne doit pas connaître l'EFT, encore.
Exact.
D'où l'importance de partager ce genre d'expérience et de montrer que ça peut être possible. Ça ne marche pas à tous les coups, c'est pas une baguette magique, on est bien d'accord, mais c'est quand même un outil qui donne un énorme pouvoir sur ce que nous vivons. On peut reprendre, comme tu disais tout à l'heure, les rênes de notre vie et de la situation.
Voilà, c'est quelque chose qui est à notre disposition pour être essayé.
Mais la maladie peut nous affecter dans bien d'autres domaines que la douleur, Christine. Qu'est-ce que tu peux en dire?
Oui, ça affecte vraiment dans tous les domaines de la vie, en fait. Et la première chose que je dirais, c'est qu'il faut vivre. Et en général, la réponse qu'on me dit, oui, c'est bien mignon tout ça, mais comment? D'abord pour vous-même. Ça peut paraître égoïste, mais pas tant que ça. J'habite sur une île et le meilleur moyen de sortir d'une île, en règle générale, à moins d'avoir le temps pour le bateau, c'est quand même l'avion. Et quand vous prenez l'avion, on va vous donner des consignes de sécurité et entre autres, en cas de dépressurisation de la cabine, les masques à oxygène tomberont du plafond. Et la consigne de sécurité suivante fait frémir toutes les jeunes mères que je connais, à commencer par moi il y a de longues années, dirons-nous. Si les masques tombent, mettez d'abord votre masque, puis celui de votre enfant.
Non, c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que cette histoire?
Absolument, c'est la première réaction de beaucoup de personnes, parce que puisqu'on est le plus fort, c'est à nous de s'occuper du plus faible. Mais en fait, si on réfléchit, si vous vous épuisez à mettre le masque sur un enfant qui, par définition, va être apeuré à ce moment-là, probablement récalcitrant et difficile à manipuler, qui est-ce qui va s'occuper de lui une fois que vous serez épuisé, évanoui? Par contre, si vous êtes concentré et que vous mettez d'abord votre masque, vous serez beaucoup plus efficace pour le mettre ensuite à l'enfant, pour le rassurer, ou à une autre personne d'ailleurs. Donc, vous serez au mieux pour assurer les étapes suivantes. Et bien là, c'est pareil. Il faut que vous trouviez votre masque à oxygène. Et chacun a sa propre version, ce que j'appellerais sa boîte à outils. Pour moi, bien sûr, l'outil numéro un, c'est l'EFT. Oui. Mais il y en a d'autres. On a parlé de la respiration, tout simplement, de la méditation, qui d'ailleurs est proposée dans de plus en plus d'hôpitaux en France et ailleurs. La cohérence cardiaque, l'oponopono, dont on n'a pas du tout parlé, les visualisations, des formules très douces d'exercice physique ou de yoga, l'alimentation, qui a aussi un impact énorme. Je vous conseille la conférence du docteur David Servan-Schreiber sur le sujet, qui est disponible sur Dailymotion ou sur mon site si vous ne le trouvez pas là-bas. Justement sur le sujet des différents éléments qui vous permettent de vous défendre contre le cancer, naturellement. Et puis je dirais qu'il y a une autre partie de la boîte à outils qu'on néglige parfois, qui est composée de votre entourage. L'entourage physique, je pense notamment aux matériaux toxiques autour de vous, mais aussi l'entourage émotionnel.
Oui.
On est seul responsable de ce que nous ressentons, et personne ne peut être en colère ou se sentir bien à votre place. Hein, c'est difficile techniquement. Mais nous sommes tous, par contre, influencés par ceux qui nous entourent, consciemment ou inconsciemment. Donc, que ce soit chez vos proches, les moins proches, les médias, choisissez ce qu'il est bon pour vous d'entendre, ce qui vous fait vraiment du bien. Il y a les gens qui pourraient vous déprimer, qui pourraient vous donner des avis défaitistes. Oh tiens, j'ai entendu parler de telle personne qui avait la même maladie que toi, oh là là, c'était terrible. Évitez.
Oui, vous devriez vous voir, hein. Vous devriez passer du temps ensemble.
Oui, voilà, c'est sympathique. Mais attention, il ne s'agit pas de juger. Chacun fait de son mieux en fonction de son vécu et de là où il est dans la vie. La personne qui vous fait cette remarque a probablement un certain nombre de problèmes aussi. Donc votre rôle vis-à-vis de ces personnes, c'est de vous protéger de leur peur. Et si ce sont des proches, simplement de les aimer pour ce qu'ils sont et pour le moment où ils sont dans leur vie. Et puis si c'est pas des proches, c'est beaucoup plus facile, ignorez-les. Surveillez vos réactions. Parce que si leurs réactions ou leurs commentaires déclenchent chez vous de la peur, de la colère, vous démoralisent, c'est peut-être bien vous qui allez payer littéralement dans votre chair. Puisque c'est votre corps qui est en besoin à ce moment-là. Rappelez-vous, on a discuté un petit peu au début des effets du stress sur votre système immunitaire. Pensez-y, quel est votre objectif? A priori, c'est votre guérison qui commence avec votre morale. Donc évitez les discussions toxiques. Ceci dit, on est tous humains et vous aurez des moments de baisse de morale comme tout le monde. Mais au moins vous pourrez tapoter, ce qui change complètement la donne. Et d'un autre côté, vous allez avoir ceux qui vont créer votre comité de soutien, ceux qui restent positifs dans leurs discours et dans leurs actes, et qui seront là pour aider quand vous en aurez besoin, pour vous remonter le moral, pour rire un bon coup, ou bien pour partager vos larmes, ou bien simplement pour aider dans les aspects pratiques, les enfants, les courses, la cuisine, peu importe. Votre rôle vis-à-vis de ces personnes-là, c'est simplement d'être vous-même, de les appeler quand vous en avez besoin, parce que c'est pas, ils vont pas non plus être tout le temps sur votre dos à vous dire « je suis là si tu as besoin », ça serait vous envahir, ça va pas non plus vous aider. C'est à vous de faire le pas pour les appeler. Ça fait partie de l'aspect de vous prendre en main, en fait.
Oui, et si c'est difficile pour vous de demander de l'aide, parce que vous avez été très débrouillard jusque-là, ça aussi, ça peut très bien se tapoter.
Absolument. Et puis parce qu'on est éduqué aussi dans l'idée, parfois, qu'il faut se débrouiller seul et que c'est pas bien de demander aux autres.
Oui.
Donc ça aussi, ça se tapote. D'ailleurs, trouvez quelqu'un avec qui vous pouvez tapoter. Quelqu'un avec qui vous avez entière confiance. Et dans des cas aussi graves, je vous suggère vraiment de vous faire aider d'un praticien ou d'une praticienne pour tout ce qui est trop difficile à gérer vous-même ou avec un ou une amie.
Oui, tout à fait. Alors, avant de passer aux questions-réponses, Christine, il nous reste quelques minutes. En conclusion, qu'est-ce que tu dirais sur ce diagnostic, le choc du diagnostic?
Alors, on va essayer de faire bref. En conclusion, le diagnostic, c'est ce que vous en ferez. En théorie, le futur n'existe pas encore. Et quoi qu'on vous dise, vous avez toujours une fourchette de possibilités pour imaginer ce qui n'existe pas encore. D'un côté, le voir tout noir, de l'autre côté, le voir tout rose, et puis au milieu, de choisir votre milieu. Alors, profitez-en. Pourquoi ne pas voir le bout du chemin en rose, par exemple? Ça ne veut pas dire que le chemin lui-même sera tout rose, mais ça peut vous aider à avancer. Utilisez des événements futurs qui vous motivent, qui vous tiennent à cœur, des vacances dont vous avez toujours rêvé, le mariage d'un enfant, la naissance de petits-enfants. Quelque chose qui symbolise le bonheur pour vous à long terme. Ça va vous aider à vous concentrer sur votre bien-être. Et si jamais penser à ça déclenchait pour vous des angoisses, rappelez-vous ma vaisselle sale à nettoyer dans le noir. Ce que vous faites, c'est que vous êtes en train d'allumer la lumière, donc tant mieux. Comme ça, vous pourrez vraiment nettoyer en tapotant, plutôt que de laisser tout ça s'accumuler dans votre subconscient.
Oui, et il y aura moins de casse.
Il y aura beaucoup moins de casse, oui. Oui, la vaisselle dans le noir, c'est pas conseillé. Ouais. et puis en dernier, tu as dit au début que j'avais été extrêmement sceptique, et c'est peu dire, avec les débuts de l'EFT, et j'ai beau voir les bénéfices incroyables quotidiennement, je reste une sceptique dans l'âme, et j'aime bien avoir des preuves scientifiques de ce que j'avance quand il y en a. Il y en a beaucoup plus qu'on ne pense, j'ai pas le temps de faire le tour maintenant, mais sachez qu'on parle beaucoup des études des effets du stress sur notre organisme. On parle moins des milliers d'études qui montrent les effets de la relaxation, comme par exemple celle qui montre que différentes techniques de relaxation et de visualisation améliorent la réponse du système immunitaire de patientes du cancer du sein spécifiquement. Dans le cadre de l'EFT, il y a une étude qui a été publiée très récemment qui montrait l'impact d'une heure d'EFT sur un certain nombre de paramètres psychologiques qui montraient une amélioration de 40 à 60% pour ceux qui avaient fait de l'EFT par rapport à ceux qui avaient fait soit de la une psychothérapie normale, soit une heure sans rien faire du tout. Donc ça, c'est pour le côté émotionnel. Et pour le côté physique, ils avaient mesuré le niveau du cortisol, qui est donc l'hormone du stress, et qui était descendu beaucoup plus pour les personnes qui avaient fait de l'EFT, 24%, que pour les autres, qui s'étaient quand même un peu calmés, qui étaient descendus de 14%. Ceux qui avaient fait de la psychothérapie, ou rien du tout d'ailleurs. Donc voilà, pour conclure, l'EFT peut d'abord vous aider à traiter tous vos sentiments difficiles qui vous envahissent à chaque étape du diagnostic. C'est un travail de tous les jours, sur vos angoisses de tous les jours, sur vos peurs, sur vos colères, votre colère, votre anxiété, votre tristesse. Vous pouvez aussi utiliser l'EFT pour vous accompagner dans vos chirurgies, vos traitements, vos chimiothérapies.
Oui.
Et puis, si votre travail émotionnel facilite votre guérison physique, eh ben, profitez du bonus.
Oui, bien sûr.
Donc, voilà. Sachez que personne ne sait de quoi demain est fait, et quel que soit le diagnostic qu'on vous donne, gardez les rênes en main. C'est à vous de choisir comment vous voulez l'aborder.
On a toujours le choix. Voilà. Ce qu'il est important de rappeler. Et merci beaucoup, Christine, pour toutes ces pistes que tu as partagées. Tu as parlé de référence sur ton site. Est-ce que tu veux bien nous rappeler le nom de ton site?
Oui, www.eftpratique.com.
Parfait. On va le mettre dans le chat aussi, qu'on va ouvrir d'ici peu. Merci beaucoup. On va passer aux questions-réponses. Merci Christine, à tout de suite.